Eh bien, cet après-midi, à la fois l'Épître aux Hébreux chapitre 8 et Jérémie chapitre 31. Jérémie 31. Souvent dans la discussion de la nature de la Nouvelle Alliance, on commence avec verset 31, c'est-à-dire Jérémie 31 à partir de verset 31. Il vaut mieux de commencer quelques versets plus tôt. Si j'avais le temps, j'essaierais de donner une survol de cette portion de Jérémie, mais commençons tout simplement avec verset 29. « En ces jours-là, on ne dira plus. » Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera des raisins verts aura les dents agacées. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Eh bien, l'expression que nous trouvons dans chapitre 31, verset 29, se trouve dans deux endroits de l'Ancien Testament ici, et dans la prophétie aussi d'Ézéchiel, mais avec une signification différente les deux occasions. Ici, dans ce contexte, j'insiste que cette expression qui maintenant est cancellée, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées, mais chacun mourra pour sa propre faute. On ne dira plus cette expression. Cette expression explique la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En ces jours-là, on ne dira plus ceci. Autrefois, on disait ceci, et maintenant, on ne le dira plus. Parce que, après tout, il y aura une nouvelle alliance. Donc, le fait qu'on ne dit plus cette expression donne une espèce d'image du changement qu'on trouve entre la première alliance et la deuxième. Autrement, on perd le contexte de ce changement. Pareillement, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance explique un peu ce qui est entendu par verset 29 et verset 30. Dans les deux cas, un cas 29 et 30, l'autre cas 31 à 34, il y a une différence entre ceci et cela. Et les deux fois, l'image explique l'autre image, vous voyez. Et ce qui est assez évident, il me semble, c'est que les pères ont mangé des raisins verts et les dents de fils sont agacées, c'est-à-dire la nature de l'ancienne alliance était structurée d'une façon représentative et tribale. Tribale? Oui. C'est-à-dire, c'était tellement structuré que prophètes, prêtres, rois et quelques-uns d'autres étaient des représentants du peuple. Et quand ces personnes péchaient, la colère de Dieu tombait sur le peuple. Donc, quand David comptait le peuple, il y avait un jugement sur le peuple, parce qu'il était représentant du peuple et représentant de Dieu envers le peuple, et la nature de cette alliance avait toujours ses positions médiatrices, c'est-à-dire la nature de l'ancienne alliance était représentative et tribale. Mais un jour arrivera où on ne dirait plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. » Ce n'est pas une question du tout. S'il y a des implications pour les enfants, les petits-enfants, si quelqu'un pêche, dans un sens social, c'est inévitable. Hein? Si vous êtes un père ou une mère véritablement méchant, incroyant, blasphémeux, il y a des implications pour vos enfants. Je sais que la grâce de Dieu peut sauver n'importe qui, mais en général, à part de l'intervention de la grâce de Dieu, il y a des implications de génération en génération, n'est-ce pas? C'est enseigné déjà dans les 10 commandements. Il y a de la colère jusqu'à la 3e et 4e génération, n'est-ce pas? Il y a des implications sociales de péché. C'est pour cette raison que nous sommes à la fois victimes et coupables. Je reçois les résultats des péchés des autres et je commets du péché et d'autres personnes reçoivent les résultats mauvais de mon péché. Il n'y a presque pas de péché qui est complètement privé. Le péché est quelque chose de social. C'est contre Dieu, oui, premièrement, mais c'est quelque chose de social. Même la pornographie, on dirait que c'est privé, oui, mais ça change tellement notre compréhension de l'autre sexe qu'il y a des implications sociales, n'est-ce pas? Qui touchent nos mariages, nos compréhensions d'un don de Dieu, d'autres personnes. Il n'y a pas de péché complètement privé. Mais ce passage ne parle pas de cela. Ça parle plutôt de la structure de l'ancienne alliance. La structure de l'ancienne alliance se dépendait complètement de tribus et de représentations. Donc le prêtre représentait Dieu au peuple et le peuple à Dieu. Le roi représentait Dieu au peuple et le peuple à Dieu. Les prophètes. Le prophète était un homme d'Israël, mais quand même, il représentait Dieu au peuple. Et donc, ce n'était pas chaque personne, n'importe qui dans Israël qui pouvait dire « Ainsi parle l'Éternel ». C'était celui qui était le représentant de Dieu, le prophète lui-même. Et donc, c'était aussi les prêtres, c'était aussi le roi même qui était chargé d'enseigner « Connaissez l'Éternel ». Dans Israël, oui, les prêtres avaient la responsabilité d'offrir les sacrifices et ainsi de suite, mais ils avaient aussi la responsabilité d'enseigner le peuple en ce qui concerne les Écritures, n'est-ce pas? Soit avant l'exil, soit après. Donc, dans le temps de Néhémie, quand il y a ces grandes conférences bibliques, ce sont les prêtres, après tout, ou les personnes lévitiques qui lisent la parole, traduisent de l'hébreu en araméique, et ensuite, araméen. Et ensuite, donnent une exposé pour que le monde comprenne véritablement ce que dit la parole de Dieu. C'est une façon de dire, connaissez l'Éternel, vous voyez, c'est leur responsabilité. Et le roi aussi n'avait pas besoin tout simplement de diriger les affaires du pays avec la justice, mais aussi protéger l'alliance. Et dire en effet, voici le chemin de l'Éternel, la voie de l'Éternel. Connaissez l'Éternel, hein? Il est représentant. Mais un jour, on ne dira plus. Et Jérémie dit, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. Et ensuite, verset 31, voici que les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Mais quelles sont les différences? s'il y a une distinction à faire, exactement où se trouvent les différences entre les deux alliances. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit d'entre eux, jusqu'au plus grand. Maintenant, ça, c'est remarquable. Il n'y a pas tout simplement une intensification de l'Ancienne Alliance. Après tout, même dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit à maintes reprises, « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Si on cite seulement ces passages, on pourrait dire que cette nouvelle alliance, ce n'est que le renouvellement de l'Ancienne Alliance. Mais dans l'Ancienne Alliance, il y avait des personnes désignées par Dieu lui-même, des représentants qui devaient dire « connaissez l'Éternel ». Mais sous les termes, sous la structure de la nouvelle alliance, celui-ci ne dira plus « connaissez l'Éternel ». Celui-là « connaissez l'Éternel ». Pourquoi pas? Parce qu'ils me connaîtront tous. Est-ce que ça veut dire que Jérémie a en vue l'abolition de maître ou de pasteur ou de professeur ou d'instituteur? Ceux, en effet, qui enseignent les autres, connaissaient l'Éternel? C'est pas possible de penser comme cela quand nous lisons dans le Nouveau Testament qu'il y a des pasteurs, ceux qui enseignent d'autres dans l'Assemblée. Si on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui enseignent d'autres, qu'est-ce que je fais ici? Mais, la structure de la nouvelle alliance n'est pas basée sur le tribut, n'est pas basée sur la représentation. Je n'ai pas une connaissance de Dieu qui m'a été donnée parce que j'ai une position de représentant spécial de Dieu. Sous les termes de la nouvelle alliance, chaque personne dans l'alliance a le même accès à Dieu. Je ne peux pas parler comme prêtre, roi, prophète, avec une certaine expérience de Dieu que franchement vous ne pouvez pas achever, parce que vous n'êtes pas représentant, vous autres, et moi je le suis. Je ne peux pas parler comme cela. Je ne peux pas parler pour vous dire, connaissez l'Éternel de façon que moi je le connais. Parce qu'ils me connaîtront tous. Donc dans le Nouveau Testament, celui qui enseigne les autres, le don d'enseigner, mais il y a d'autres modèles pour comprendre, n'est-ce pas? Le modèle d'un corps. J'ai les obligations ou les fonctions d'un certain membre d'un corps. Je suis un estomac, on pourrait dire. Je reçois de nourriture et je le distribue. Donc, je perds toute mon autorité aussitôt que vous pensiez que je suis rien qu'un estomac. Mais c'est ça que je suis. Je ne suis pas prophète. Ou, au moins, je ne suis pas prophète d'un sens que vous n'êtes pas prophète. Ou, pour élargir l'exemple, il y a un sens où je suis le fils du roi et tout le peuple de Dieu deviennent des rois. Vous n'avez que lire les premiers versets, par exemple, de l'Apocalypse. Mais dans ce sens, vous êtes aussi roi que moi. Selon la prophétie de Joël citée dans Actes chapitre 2, nous sommes tous maintenant prophètes. Dans ce sens, nous sommes tous médiateurs. Pas dans le sens qu'il y a une voix médiatrice dans l'Assemblée, je suis prêtre et vous ne l'êtes pas, mais dans le sens que nous sommes tous prêtres, c'est-à-dire ensemble nous représentons Dieu envers le monde et nous représentons le monde envers Dieu. Dans ce sens, nous sommes tous prêtres. Mais je ne le suis pas dans un sens que vous ne l'êtes pas et vous ne l'êtes pas dans un sens que je ne peux pas achever moi-même. Parce que sous les termes de la nouvelle alliance, personne pourra dire à un autre, à une autre personne sous la même alliance, connaissez l'Éternel. Ils me connaîtront tous. De même, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 26, je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Cette idée est répétée assez souvent chez 1 Jean. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il y a des commentateurs qui disent « Jean est hypocrite ». Après tout, il dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne », mais qu'est-ce qu'il fait, notre cher Jean? Il les enseigne. Donc, ce que Jean veut dire, ces commentateurs disent, c'est que vous n'avez pas besoin que ceux qui vous séduisent vous enseignent. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin que les autres vous enseignent, pourvu que moi, j'ai encore le droit de vous enseigner, afin que vous deveniez mes disciples, mais pas les disciples des autres. Donc, il est un peu orgueilleux et surtout hypocrite. Mais le point de Jean, ce n'est pas que lui, il a le droit d'enseigner et les autres n'ont pas le droit d'enseigner. Ça, ce n'est pas le point du tout. Ce n'est pas le point du tout. Mais les hérétiques, dans le temps d'un Jean, des protognostiques, ils pensaient qu'ils avaient une approche spéciale à Dieu, une connaissance de Dieu plus profonde, une connaissance de Dieu. Ils avaient la gnose, ils connaissaient l'affaire, ils avaient gnosis, et les autres ne l'avaient pas. Dans ce sens, ils avaient quelque chose que les autres chrétiens n'avaient pas. Donc, ça leur donnait une place pour dire, connaissez Dieu comme moi, je le connais. Mais si nous sommes sous la nouvelle alliance, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Nous avons tous reçu l'onction. Donc, nous avons le droit de trouver ce qui nous enseigne dans la parole de Dieu, mais pas comme fonction d'une certaine expérience supérieure ou médiée par le Saint-Esprit ou parce qu'ils ont une voix apostolique ou une voix prophétique ou une voix de prêtre ou de roi même, qui nous donne une place spéciale que les autres chrétiens ne peuvent pas achever. Dans ce sens, ce que Jean condamne, c'est, en réalité, celui qui enseigne dans un sens de représentation, dans un sens de médier quelque chose. Mais Jean n'a pas peur de ceux qui enseignent la parole de Dieu et qui veulent que chaque doctrine, chaque éthique, chaque moralité soit approuvée par la parole. Donc, ce n'est pas surprenant, donc, que dans 2 Jean et 3 Jean, il est prêt à faire une distinction entre ceux qui enseignent bien et qui sont fidèles à l'Évangile. Ce n'est pas seulement qui a le droit d'enseigner, les autres ne l'ont pas, mais n'importe qui sont fidèles à l'Évangile et à la parole de Dieu. Il est content si ces personnes exercent leur don d'enseigner. Eh bien, la différence donc entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, du point de vue de Jérémie, c'est que sous les termes de la nouvelle alliance, la structure est changée. Ce n'est plus une alliance tribale et basée sur représentation. Maintenant, on commence à s'apercevoir comment cette exposition est liée au reste de la pensée de l'écrivain, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Parce qu'après tout, il est en train de démontrer que nous n'avons plus besoin des prêtres de l'Ancienne Alliance. Nous n'avons plus besoin des prêtres et des sacrifices, de souverains sacrificateurs, le système lévitique. Nous n'avons plus besoin de tout cela parce que nous avons maintenant, sous les termes de la Nouvelle Alliance, un seul souverain sacrificateur. Donc le système est nécessairement changé. Vous voyez? Donc la citation de Jérémie 31, ligne après ligne après ligne, pas tout simplement le fait que c'est la Nouvelle Alliance, mais ligne après ligne après ligne pour démontrer quelle est la nature de la différence, établit aussi que nous n'avons plus besoin de ces représentants sous les termes de la Nouvelle Alliance, parce que sous les termes de la Nouvelle Alliance, la structure n'est plus représentative. Question, commentaire? Sa propre foi juive. Comme il y a des dénominations dans l'héritage protestant, il y a des positions assez différentes dans la tradition juive. Il y a des juifs qui sont pas mal séculaires ou libéraux, mais ceux qui sont les plus orthodoxes, ils croient ce qu'enseignent les rabbins du 1er et 2e siècle, après la détruite du temple, en 70, et de nouveau Jérusalem complètement détruit sous la révolte de Bar Kokhba, dans 132 à 135. Après ce temps-là, les bonnes œuvres fonctionnent avec la même valeur, avec la même valeur que les sacrifices prescrits par Moïse. Donc, s'ils connaissent son héritage juif, et s'il a pris instruction des rabbins, ça c'est la réponse qu'il va donner. Il y a bien des juifs qui ne connaissent pas leur propre héritage, mais c'est ça la réponse qu'il donne. À mon avis, c'est plus important de dire que Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébreu, ce qu'ils appellent la Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament, déjà annonce en effet que l'Ancienne Alliance est ancienne, que la structure de ses promesses en ce qui concerne le repos, la structure de ses promesses en ce qui concerne l'Alliance, la structure de ses promesses en ce qui concerne le souverain sacrificateur, annonce déjà dans l'histoire qu'on a besoin d'un sacrificateur plus efficace que le sacrificateur du tribu de Lévi. Et donc, on essaie d'établir le contenu du message chrétien par leurs propres écrits. Parce qu'après tout, dans l'apologétique du temps du Nouveau Testament, quand les livres du Nouveau Testament n'avaient pas encore été écrits, naturellement, la seule Bible qu'on avait, c'était ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est ça que nous trouvons ici, en effet, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas tout simplement de démontrer qu'ils sont pas véritablement consistants? Cohérents, oui, ou conséquents. Dans leur propre religion, peut-être il y a quelque chose là, mais s'ils connaissent véritablement leur propre héritage, ils vont savoir comment répondre. Mais de démontrer que selon leur propre Bible, la Bible elle-même attend quelque chose de plus grand que le système de Moïse. Quand je suis allé à l'université McGill pour étudier la chimie, ça fait bien longtemps, à Montréal, à peu près 40% de nos étudiants étaient juifs. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir bien des discussions et à cet égard. Et je me souviens quand un jeune juif orthodoxe est devenu chrétien, ses parents ont eu une funéraille pour lui. C'était pour cette famille, ce jeune homme était mort. Oui. Et c'est une bonne question. Et surtout ceux dans l'héritage strictement dispensationaliste, pas la tradition dispensationaliste progressive, mais dans l'ancienne tradition dispensationaliste, on essaie de limiter cela aux Juifs, en effet. Mais d'autres dispensationalistes, même comme Walford, l'ancien président de Dallas Theological Seminary, ils pensent que quand ce chapitre, Jérémie 31, est cité dans Hébreux chapitre 8, l'auteur a en vue seulement les Juifs. Quand il cite ces versets encore de nouveau, dans chapitre 10, il a en vue un cercle plus large, s'y inclut les païens convertis. Mais c'est intéressant que même un dispensationaliste comme Walford peut admettre en réalité que ces versets font référence dans le Nouveau Testament à un cercle plus large. Mais je dirais qu'il y a un autre point capital qu'il faut évaluer un petit peu. On peut avancer la question comme ceci. Y a-t-il d'exemples dans le Nouveau Testament, des exemples clairs, des exemples généreux, où des textes qui font référence dans l'Ancien Testament, strictement, seulement aux Juifs, sont appliqués généreusement à tout chrétien? Et la réponse est certes, oui. Par exemple, vous n'avez que lire, disons, 1 Pierre 1 et 2. Par quelle espèce d'herméneutique? Et il me semble que le point, c'est que, de même que le sacrifice, le jour d'expiation que nous allons examiner plus tard cet après-midi, prédit en effet le sacrifice de Jésus. Ainsi aussi, le peuple de l'ancienne alliance anticipe, prédit, prophétise le cercle du peuple de la nouvelle alliance, parce qu'après tout, ils ne sont pas complètement séparés. Donc, il y a plusieurs manières de s'approcher de ces affaires parmi les écrivains du Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 11, par exemple, c'est le modèle de l'olivier. Où il y a des branches qui sont arrachées ou sont attachées. Mais donc, il y a une continuité du peuple de Dieu. Dans le sens de cette continuité, donc, est-ce que nous sommes encore le vrai Israël? Ça, c'est la question. Et c'est pour cette raison, donc, que l'Église peut être considérée. Donc, Paul peut poser la question dans Romains chapitre 2. Qui sont les vrais enfants de la circoncision? Et ce n'est pas tout simplement la circoncision propre, mais la circoncision du cœur. Un point qui est déjà établi chez Deutéronome, après tout. Maintenant, c'est appliqué encore d'un sens plus large à ceux qui ne sont pas juifs d'un sens biologique, mais quand même qui ont été circoncis dans leur cœur. Et c'est encore élargi par la forme de parler qu'on a vue chez Paul. Qui sont les enfants d'Abraham? Les enfants, les fils d'Abraham, à cause de cette signification de fils que nous avons vue hier, les vrais fils d'Abraham, actent comme Abraham. Ils se conduisent comme Abraham, c'est-à-dire, ils démontrent la même foi qu'Abraham. Et c'est à cause de ces sortes de liens de l'Ancien Testament au Nouveau Testament que tout d'un coup, les prophéties qui mentionnent expressément les Juifs, la maison de Juda, la maison d'Israël, peut être appliquée à tous ceux qui, en réalité, sont sauvés par le Dieu d'Israël. Mais, et c'est à ce point que la discussion devient plus difficile. À ce point, il faut au moins poser la question, mais y a-t-il des places dans les écrits du Nouveau Testament où une distinction entre les chrétiens et ou le monde chrétien, juif et païen, une distinction entre eux autres et les juifs continuent? Parce que s'il y a des occasions où, franchement, quand l'apôtre Paul, par exemple, parle des Juifs, il ne veut pas signifier les chrétiens, ceux qui sont sauvés par le Dieu des Juifs. Donc, tout d'un coup, ça souligne le fait qu'il faut regarder clairement, avec précision, le contexte. Et c'est bien évident que Paul peut utiliser le mot juif pour parler des Juifs selon la chair, des fois. Quand son cœur brise à cause de ses copains charnels, à cause de ses co-juifs dans Romains chapitre 9, certes, ce qu'il a en vue, ce sont les juifs d'un sens biologique, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas comme si Paul, ou Pierre, ou Matthieu, ou Jean, parlent toujours de la même façon, ça dépend du contexte encore. Et c'est pour cette raison qu'il y a des différences, même parmi ceux qui sont pas mal prudents dans leur compréhension de la Bible. C'est une des raisons pourquoi ils se diffèrent l'un de l'autre, des fois, en comprenant si un tel et tel passage fait référence à tout croyant ou seulement les croyants juifs. Mais dans cet argument ici, l'auteur ne veut pas examiner cette question en détail. Je n'ai aucun doute qu'il est prêt à faire application de la Nouvelle Alliance à tout chrétien. C'est assez commun dans le Nouveau Testament. Donc, il n'explore pas cette typologie du tout, ici. Explore pas? Explorer, est-ce qu'il y a un verbe explorer en français? Examiner, oui. Maintenant, je veux aller encore un peu plus loin avec cette compréhension de la Nouvelle Alliance et la différence entre les deux, parce que ce n'est pas le seul endroit dans l'Ancien Testament où les prophètes parlent de cette Nouvelle Alliance. Par exemple, Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. La notion de nouvelle alliance, on trouve plutôt chez Ézéchiel. Mais remarquez bien ce que nous trouvons ici. Le retour du peuple au pays. Ensuite, verset 25. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Et ainsi de suite. À mon avis, Jésus lui-même fait référence à ce passage dans Jean chapitre 3, quand il parle de la nouvelle naissance. Notez bien le symbolisme d'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que Jésus entend par « né de nouveau » « en vérité, je te le dis, » il dit à Nicodème, « si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. » Il ne peut voir le royaume de Dieu. Eh bien, c'est expliqué dans verset 5, n'est-ce pas? « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un grand nombre de personnes qui suggèrent être né d'eau et d'esprit signifie deux naissances, naissance naturelle, d'eau, et naissance spirituelle, née d'esprit. Mais c'est intéressant, mais aucune place dans l'ancien monde, soit dans le monde grec, soit dans le monde hébreu, on trouve que la naissance naturelle, on parle de cette naissance naturelle comme être né d'eau. On ne le trouve pas. En plus, si nous faisons une comparaison entre verset 3 et verset 5, l'interprétation devient plus claire. Il faut tout simplement ôter les phrases en parallèle. Verset 3, Jésus lui répondit. Verset 5, Jésus lui répondit. Donc, on ôte ces deux phrases. En vérité, je te le dis. Verset 3, verset 5, en vérité, je te le dis. Deux phrases exactes. On les ôte. Verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Apparemment, à peu près la même chose. Donc, la seule phrase qui reste. Verset 3. Si un homme ne naît de nouveau. Verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, naître d'eau et d'esprit, c'est parallèle à naître de nouveau. Il n'y a pas deux naissances en vue, mais une naissance qu'on caractérise par cette expression naître d'eau et d'esprit. En plus, à la fin de cette discussion, vers la fin, Jésus reproche à Nicodème parce qu'il n'a pas compris ce que Jésus voulait dire par naître d'eau d'esprit. Verset 10, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Qu'est-ce que le docteur d'Israël aurait dû connaître? Mais les Écritures. Donc, quelle écriture est-ce que Jésus avait en vue que Nicodème aurait dû comprendre? Y a-t-il un passage dans l'Ancien Testament où le texte parle clairement de naître de nouveau ou naître de l'esprit et d'eau? Non, 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 non. Mais eau et esprit, oui. À plusieurs endroits. Mais surtout Ézéchiel chapitre 36. La seule chose que Jésus ajoute, la seule chose, c'est le métaphore de naissance. Mais tout un changement personnel, un changement de cœur, une transformation, c'est anticipé assez souvent dans l'Ancien Testament. Les prophéties de Joël, les prophéties d'Ésaïe, les prophéties d'Ézéchiel. Un temps quand l'Esprit Saint serait versé sur le peuple de Dieu. Et avec ces deux mots, eau et esprit, eau qui signifie lavage, purification, esprit, la présence et le pouvoir de Dieu lui-même, déjà expliqué dans les termes d'Ézéchiel. Donc, cette naissance sous la Nouvelle Alliance est une naissance caractérisée par un lavage spirituel pour nous purifier et la puissance de l'Éternel afin que nous puissions véritablement le connaître. Exactement les mêmes thèmes, mais pas avec le même métaphore qu'on trouve dans Jérémie 31. Nous serons purifiés, tous le connaîtront. Commentaire, question? Je peux imaginer une douzaine de questions, mais je ne veux pas les soulever si vous ne les voyez pas. Je ne veux pas vous troubler. Est-ce que c'est injuste que nous avons aujourd'hui déjà le don du Saint-Esprit, le pardon et tout cela, mais nous n'avons pas encore le corps de la résurrection et les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Est-ce que c'est injuste de la part de Dieu? Oui ou non? Non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou supposons que quelqu'un, les Huguenots, mettent leur confiance en Jésus-Christ et après la révocation de l'édit de Nantes, des dizaines de milliers de personnes sont tuées, deviennent esclaves. Et vers la fin du temps, une autre personne se convertit et 5 minutes plus tard, Jésus revient. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que tu es injuste? Mais probablement vous diriez non. Il n'est pas injuste. Mais pourquoi pas? Et si vous avez une bonne réponse pour cette question, n'est-ce pas la même réponse pour la question que vous venez de poser? C'est-à-dire, il y a des étapes dans le plan de salut, des stagiaires, et même les saints de l'Ancienne Alliance connaissent que ce qui leur avait été donné n'était pas tout simplement pour eux, mais pour nous. Vous n'avez que relire 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12. Et c'était un grand privilège pour eux, d'être les héritiers de cette révélation, de participer dans l'ancienne alliance. C'était la grâce qui leur avait été donnée. Mais ça ne veut pas dire qu'exactement la même grâce a donné à tout le monde. Donc, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se reportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Dieu est-il injuste? En plus, les apôtres se voient privilégiés parce que ça leur a été donné de souffrir pour Christ. Peut-être la personne qui va se penser manquant de possibilités, c'est celui qui a été converti 10 minutes avant le retour de Jésus-Christ. Il n'a jamais eu le privilège de souffrir pour Christ. Et en comparaison, quand même, avec l'enfer. Et Dieu n'est-il pas souverain? Il peut donner sa grâce, sa miséricorde à n'importe qui, en mesure qu'il veut. Nous n'avons pas tous ici exactement les mêmes dons. Est-ce que Dieu est injuste? Ça fait partie de la même question, n'est-ce pas? Je ne peux pas voir de différence, il me semble. Et la première question que vous avez posée, c'était? La différence, c'est que Encore une fois, chair et pierre et le mot semblable, ça dépend encore du contexte. Hein? Souvent chez Paul, chair se trouve en contraste avec esprit. Dans le contraste que donne Jérémie, il y a un contraste entre cœur de pierre et cœur de chair, c'est-à-dire cœur de pierre bien endurci et cœur de chair, c'est-à-dire vivant. Donc, ce n'est pas une question donc de dire que c'est la loi sur les tablettes Pierre dans ce sens, mais c'est notre cœur qui est endurci. Et chair, ça signifie dans ce contexte tout simplement vivant. Encore contexte, contexte, contexte. Eh bien, c'est déjà tard pour une pause.